essayer de poser quelques questions, d'ouvrir le champ d'interrogation pour que, dans la suite, nous ne soyons pas seulement sur des questions d'ordre pragmatique, d'évaluation de telle ou telle enquête spécifique, mais que nous puissions recadrer certains de ces débats à venir dans les deux jours qui suivent dans une problématique plus large, et dont je dirais qu'une partie de ces thèmes sont nés ici même à Versailles. Je m'explique. L'idée de statistique, bon, vous avez pour la plus, je pense pour tous, une petite synthèse donc, du propos là, qui ouvre le document que vous avez, qui vous a été remis. Donc, je ne vais pas me paraphraser, je vais développer les choses sur un point un petit peu différent, à partir de cette même thématique. Donc, les éléments dont nous traitons en termes d'indicateurs de population, indicateurs de santé publique, indicateurs de probabilité et de risque, sont une suite des processus de recherche scientifique et d'élaboration quantitative qui se sont développés au XVIIe siècle. On connaît tous le nom de Pascal, qui est inventeur du calcul infinitésimal. En tout cas, ce sont ces papiers qui ont permis à l'allemand Leibniz de développer explicitement le calcul infinitésimal, qui était lui-même spécialiste dans les mathématiques de probabilité, et qui a développé, donc, à l'époque même de la construction du château de Versailles, des recherches qui ont permis aux économistes de son temps, et parallèlement donc, aux économistes de son temps, de développer ce qui s'est appelé le mercantilisme. Qu'est-ce que c'était que le mercantilisme, théorie économique qui, d'une certaine façon, régit encore, pour une part, la réflexion des économistes d'aujourd'hui? C'est une théorie selon laquelle les éléments entrant dans une dynamique collective sont en nombre fini, théoriquement dénombrables, même si on ne peut pas aller à l'exhaustivité, et qu'en conséquence, il doit être possible de réduire ce que les économistes de l'époque appelaient le tableau économique à des nombres fixes d'entrées et de sorties. Alors, pour être très concret, à l'époque, c'était principalement les entrées d'or ou les sorties d'or. Il y avait les mines d'Amérique latine, la monétisation qui se faisait principalement en Espagne, et puis la circulation à travers les échanges monétaires dans l'Europe faisait qu'il y avait des stocks d'or qui s'accumulaient à Londres, à Paris, en Italie, et qui servaient de monnaie d'échange pour le commerce international. Donc, le mercantilisme a été ce premier moment de la statistique qui a permis de comprendre le statut d'une économie nationale en faisant abstraction des productions locales, des petites unités, mais qui globalisait le marché à partir des échanges d'entrée et de sortie. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement simple en apparence, déjà extrêmement élaboré du point de vue intellectuel, puisque cela suppose un niveau d'abstraction qui passe par-dessus les différences locales, par-dessus les dynamiques les plus micrologiques que les statistiques établissent mais absorbent dans leur tableau général. Bon, ces diverses réflexions, principalement donc autour de l'économie, sont contemporaines du début des machines à vapeur, du début de l'industrialisation et finalement du début des risques industriels. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que les premiers indicateurs économiques précèdent l'existence même des risques industriels et que dans une certaine mesure, le développement de l'économie contemporaine s'appuie pour s'auto-contrôler sur des instruments et des élaborations de pensée qui ont largement précédé l'informatisation de nos sociétés. L'informatisation, c'est l'application par des systèmes physiques électroniques et la généralisation d'idées mathématiques, d'idées formalisées, dont les débuts remontent il y a déjà assez longtemps. Ce qui est très intéressant de remarquer, ce sera pour planter cette introduction, c'est deux événements relativement récents qui transforment considérablement ce tableau historique qu'on pourrait donc faire remonter au milieu du XVIIe siècle. D'une part, c'est la rupture, disons depuis une trentaine d'années, mais peut-être que depuis les conséquences de la Seconde Guerre mondiale l'ont rendu évident pour quelques-uns et pour tous depuis une trentaine d'années, la fin du paradigme de la rationalité absolue qui avait pensé pouvoir réduire la société et ses différentes composantes à des calculs finis, permettant de, par exemple dans les logiques de développement économique à travers la planification, de réduire l'essentiel de la transformation des espaces, des modèles industriels et des effets sur les populations à des données contrôlables. La complexité du monde contemporain a rendu impossible de cultiver encore l'illusion du contrôle général des sociétés sur l'ensemble des aspects les plus fins, les plus complexes, les plus émergents qui se produisent, soit du fait de sauts technologiques, soit du fait de déplacements de population, soit du fait de transformations de modèles juridiques ou sociaux. Cet événement, donc la fin de l'utopie rationaliste absolue, si vous voulez, l'utopie positiviste, qui s'était développée au XIXe siècle, un des intellectuels contemporains, quelqu'un dont vous n'avez pas forcément entendu parler, c'est pas un intellectuel médiatique, s'appelle Zygmunt Bauman, d'origine polonaise, installé en Hollande, c'est quelqu'un qui a à peu près 80 ans aujourd'hui, et qui a eu le temps de réfléchir depuis la Seconde Guerre mondiale à toutes ces transformations intervenues dans l'espace public européen. Il a élaboré, il a publié plusieurs livres, l'un dont le titre est tout à fait frappant, traduit il y a 2 ans en France, intitulé « L'éthique a-t-elle une chance dans un monde de consommateurs ?» En gros, c'est tout un programme, après je vous invite à lire le livre si vous voulez, mais son idée c'est que la modernité européenne s'était faite sur un modèle de rationalité solide, la géométrie, la mécanique, une forme de comptabilité arithmétique. Et que nous serions passés dans un monde de rationalité liquide, où ce sont les flux, les processus, les tendances, les orientations qui nous sont les éléments les plus pertinents pour comprendre notre situation dans le monde. Donc nous sommes habitués, quand on parle de cloud computing, quand on parle d'informatique dans les nuages, nous sommes devenus progressivement experts à décrypter les tendances, les orientations et les processus, en laissant un petit peu vite de côté les chiffres locaux, les données absolues, les éléments purement statiques. Donc c'est l'un des premiers bouleversements importants de cette dimension de tableau statistique dans l'état contemporain de nos moyens techniques et de l'évolution de la société. Le deuxième élément, c'est la généralisation des formes liées au code informatique. Et je renverrai, je ne veux pas faire trop de références, ce sera la seconde et je n'en ferai plus après, je renverrai à un ouvrage assez récent d'une chercheuse française, d'abord archéologue, mais qui s'intéresse à beaucoup d'autres domaines. Elle s'appelle Clarisse Ehrenschmidt, et elle a publié, il y a 3 ou 4 ans, un livre qui s'appelle « Les trois écritures ». Et cette archéologue spécialiste de Mésopotamie a considéré qu'il fallait que l'on pouvait périodiser l'histoire de l'humanité en 3 grands moments. Le premier moment, enfin l'histoire de l'humanité récente, si vous voulez. Le premier moment, depuis l'invention de l'écriture, le cunéiforme sumérien et ce que ça implique, ça permet la comptabilité, ça permet la construction des structures d'institutions de type étatique, pas de pharaon sans comptabilité. Premier moment qui permet à l'Occident de se doter d'une histoire, qui permet à la Chine de se créer des institutions impériales, parce qu'il y a là donc un stade qui bouleverse toutes les données du néolithique antérieur. Le deuxième moment, c'est celui de la Renaissance, l'invention de la monnaie scripturaire, qui permet de créer des marchés à terme, des marchés lointains, des échanges, des exportations, et qui crée une première mondialisation à travers donc la mise en communication des différents royaumes par des éléments scripturaires, donc dans lesquels on ne transporte plus l'or, on ne transporte pas les objets, mais ce sont les signatures qui deviennent l'élément déterminant. Donc ça permet de créer le statut de l'auteur, par exemple, toute la littérature contemporaine est liée à la signature de l'auteur. Ça crée les artistes, enfin, toute une dimension. C'est-à-dire complètement bouleverser le monde à partir de cette dimension de monnaie scripturaire et de toutes ses conséquences. Et le troisième temps, c'est celui que nous vivons, c'est celui du code. Le code informatique qui transforme une nouvelle fois complètement les conditions de notre exercice de vie humaine, ce qu'on pourrait appeler l'humanité 2.0. Cette idée que nous sommes aujourd'hui dans un monde dans lequel l'individu, la signature, la personnalité subjective que la modernité nous a permis d'appréhender avec beaucoup de raffinement dans la psychologie, dans la création, dans les formes politiques des institutions démocratiques, etc. Toutes ces dimensions sont rebattues une nouvelle fois pour nous adosser à des dimensions collectives, génériques, dans lesquelles il n'y a plus que des points de réseau. Il n'y a plus que des circulations larges dans lesquelles chacun peut se situer, peut se regarder en miroir, mais pour lesquelles nous n'avons plus à considérer une individualité particulière comme le lieu de référence pertinent pour comprendre le monde qui nous environne. En ce sens, s'il est nécessaire d'adapter les indicateurs aux personnes, il est en même temps tout à fait exact que les personnes ont en permanence à se situer face à des indicateurs qui les définissent et vis-à-vis desquels notre personnalité subjective n'a plus la pertinence romantique que les auteurs littéraires du XVIIIe et du XIXe siècle avaient réussi à implanter dans le monde en voie de se démocratiser. C'est pour ça, je crois, que le thème du Congrès est extrêmement important parce qu'il nous fait comprendre que les processus économiques et sociaux ont quitté, depuis peut-être une trentaine d'années, les zones de compréhension démocratique qui avaient été celles de la Grande Révolution française et des autres transformations de l'espace public qui ont suivi jusqu'à la Libération et aux différentes lois qui ont pu être passées à ce moment-là. En ce sens, la problématique des indicateurs est d'essayer de comprendre comment nous pouvons, en tant qu'individus porteurs de valeurs subjectives, nous intégrer à un monde dans lequel les dimensions collectives de comparabilité, de mise en équivalence, de retour d'expérience, de validation des processus de mesure se poursuivent sans que nos subjectivités soient véritablement prises en compte ou aient besoin de l'être. Là où les choses grippent un petit peu, c'est que l'humanité n'est pas faite que d'adultes au travail, susceptibles d'entrer dans des statistiques, fussent-elles, comme vous le trouverez dans vos journaux aujourd'hui, fussent-elles les statistiques du bien-être établies par l'OCDE, dont les indicateurs informatiques viennent d'être mis à la disposition du public hier, pour permettre, disons, aux États de comparer les indicateurs agrégés de leur capacité économique, de leur capacité éducative, de leur capacité en santé publique, etc. En effet, le monde n'est pas fait que d'économistes, de médecins et de personnes au travail. Nous avons tous une dimension par laquelle nous sommes en apprentissage, par laquelle nous sommes en réflexion, par laquelle nous sommes en interrogation. Et cette dimension est incompressible. Le temps d'apprentissage, le temps du rêve, le temps de la récupération physiologique, tous ces temps sont des temps d'une humanité qui ne peut pas se mettre entre parenthèses. La dimension ludique, la dimension conversationnelle, l'ensemble des échanges gratuits, tout ce qui porte à l'esthétique ou à la réflexion culturelle, cela fait partie des conditions dans lesquelles nous pouvons exercer une activité socialement mesurable, mais cette dimension-là n'est pas forcément mesurable en termes de tableau statistique. Et en ce sens, toute dimension de cette humanité 2.0 à partir des processus, des flux, des tendances et de l'observation statistique est une humanité qui met entre parenthèses ses propres conditions d'exercice. Et c'est là que, je crois, beaucoup des questions qui vont être discutées dans ces deux jours vont pouvoir se développer. Dans cet interstice qui fait que la plainte, la souffrance, l'angoisse, le retour sur son expérience vécue est une dimension non statistique que les indicateurs permettent de déceler comme une dimension à la marge. La complexité difficile à intégrer, comme les précautions d'interprétation, la remise en contexte indispensable pour qu'un élément quantitatif puisse être interprété de la manière qui convient à la situation ou à l'objet de la collectivité qui s'analyse elle-même à travers ces indicateurs. Donc, en ce sens, la société de l'information est une société qui cesse de cultiver l'utopie positiviste, mais qui, en substitution de cette utopie positiviste, a créé une utopie de l'abolition de l'espace-temps. Parce que le point essentiel de cette idée de tableau statistique venu du mercantilisme du XVIIe siècle, c'est que si l'on a un tableau, on peut abolir les conditions initiales de sa constitution. Un tableau nous donne l'illusion de posséder, comme une cartographie, la totalité des éléments discrets du monde et de pouvoir en tenir la réalisation et avec l'idée qu'il suffirait de modifier un facteur quelque part pour que l'ensemble du tableau prenne une coloration différente. La seule chose, c'est que pour pouvoir modifier ce point, ce facteur particulier, tous les processus d'interaction sociale qui permettraient la réalisation de cette modification sont d'une complexité que, par définition, le tableau n'enregistre pas. Ou alors, il faut pouvoir passer par de multiples sous-tableaux d'interférence qui, à un moment donné, laisseront place à des relations réelles entre personnes vivantes. Et ces relations réelles entre personnes vivantes introduisent toutes sortes de frottements, toutes sortes de divergences, de complexités d'interprétation dont les tableaux ne peuvent plus véritablement rendre compte. C'est ici que l'on voit les éléments qui font que notre société en est à essayer de domestiquer la complexité. Je prends exprès le terme de domestication, parce que la domestication, au sens de la domestication des plantes et des espèces animales qui ont permis aux sociétés du néolithique de créer une sécurité alimentaire, de se déplacer et d'entrer en communication, de marcher les unes avec les autres, l'idée de domestication est sans doute l'idée fondamentale de l'humanisation moderne. La domestication a permis l'émergence de sociétés stables, qu'elles soient nomades ou sédentaires. Eh bien, aujourd'hui, nos sociétés en sont à domestiquer la complexité. Cela renvoie à toutes sortes d'apprentissages, cela renvoie à toutes sortes de réflexes à acquérir et d'habitus dont il nous faudrait nous déprendre. Quels sont les éléments principaux de cette domestication de la complexité? Je dirais, c'est d'une part la modularité. Nous n'avons plus d'indicateurs globaux sans pouvoir, enfin, nous ne pouvons pas comprendre les indicateurs globaux sans nous référer à des indicateurs plus petits qui modularisent, sectorisent, détaillent les différentes opérations que les indicateurs globaux agrégés permettent éventuellement de nous fournir. Nous avons besoin de la récurrence, c'est-à-dire de mener les enquêtes de manière approfondie à plusieurs reprises, en échantillonnant les éléments de façon suffisamment précise et en disposant d'enquêtes comparables dans différents lieux ou selon différentes procédures pour permettre de faire la part de ce qui est une anomalie liée à un contexte local et ce qui est une différence de modèle d'enregistrement ou de type d'interprétation. Et de la même manière, nous avons besoin en permanence de l'idée de retour sur expérience, de validation réflexive, de conditions d'interprétation qui sont des manuels, des guides d'utilisation sans lesquels les indicateurs ne peuvent pas prendre tout leur sens indicatif et prospectif. En ce sens, nous avons besoin, au stade où nous en sommes, l'humanité 2.0 peut en être, nous avons besoin en permanence de réfléchir aux usages qui sont possibles de nos différents indicateurs pour savoir, question centrale, si nous sommes toujours dans un tableau mercantiliste, auquel cas les plus et les moins finissent par s'annuler, les plus d'un côté se traduisent par des moins ailleurs et le tableau évolue avec des échantillons différents, mais selon une évolution en modèle fini, ou bien si nous sommes entrés dans une logique où la connaissance que nous avons des processus sociaux permet de démultiplier l'efficacité des sociétés et que la part de calcul et de comptabilité ou de mise en équivalence que produisent les statistiques permettent de donner à la société une auto-compréhension d'elle-même qui maximise et développe sa propre capacité d'évolution. Je crois que pour la génération dont nous faisons partie, c'est la question qui est en cours de ce traité et les aspects réflexifs de la mondialisation contemporaine sont en grande partie liés à cette question. Est-ce que les difficultés économiques qui se manifestent en Europe ont pour contrepartie la prospérité chinoise ou bien est-ce que l'évaluation comparée de l'évolution des différents systèmes permet d'améliorer l'efficacité globale de tous les systèmes humains et qu'en conséquence, la capacité d'autoréflexion et in fine, la capacité de soin, la capacité d'attention, la capacité de compréhension et de partage s'en trouveront accrues au terme d'une humanité plus capable d'objectiver elle-même ses propres dimensions. Ici, la statistique ne peut pas être coupée d'une dimension clairement éthique. La dimension éthique, c'est la dimension qui relie le tableau statistique à des engagements collectifs, à des engagements communs, à des horizons de sens pour lesquels les questions de risque, les questions de précaution, les questions de rapport coût-bénéfice deviennent absolument centraux. Et c'est ici qu'il est extrêmement crucial de voir pourquoi ce passage vers ce que j'appelais donc l'humanité 2.0 transforme nos habitudes, puisque jusqu'à une époque récente, l'éthique était considérée d'abord dans une perspective individuelle, ce qui est bon ou ce qui est moins bon, ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est de ma responsabilité ou ce qui n'est pas de ma responsabilité, et qu'aujourd'hui, dans le cadre des indicateurs dont nous débattons, les responsabilités éthiques deviennent des responsabilités communes, qui passent par la médiation des éléments d'objectivité dont nous disposons sur nos propres milieux sociaux. C'est-à-dire que les indicateurs sociaux nous permettent de prendre en compte, peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, de façon objective et non plus de façon métaphysique, la fragilité de l'individu humain comme l'élément fondamental qui nous permet de justifier la considération des indicateurs collectifs. C'est parce qu'individuellement, nous n'avons pas la connaissance des échelles auxquelles se produisent les phénomènes, nous n'avons que des indications vagues liées à l'expérience, liées à des échanges, liées à des impressions, à du ressenti, à du vécu. Et le vécu, le ressenti et nos échanges de proximité ne nous permettent pas de prendre la mesure des phénomènes objectifs au sein desquels nous agissons. En ce sens, la dimension éthique des tableaux statistiques et des indicateurs est absolument centrale, puisqu'elle permet de créer les bases sans lesquelles nous ne pouvons simplement pas discuter de la condition humaine que chacun d'entre nous vit dans son métier, dans son milieu de proximité, dans ses lieux géographiques d'existence. C'est pourquoi, et je ne veux pas être beaucoup plus long, c'est pourquoi aujourd'hui, la question de l'objectivation des phénomènes collectifs a pris une telle importance dans l'ensemble des dispositifs d'information et de réflexion. Il n'est plus question que de crise, il n'est plus question que de tendance, il n'est plus question que de systémique, il n'est plus question que de dynamique. Bref, tous ces mots, et je n'ai pas besoin de renvoyer à des exemples précis pour que chacun d'entre vous, dans son contexte propre, les replace, tous ces éléments nous montrent que les modèles d'information, les processus de réflexion dans lesquels chacun d'entre nous se trouve pris, nous renvoient à une éducation permanente qui nous permet d'exister comme humain 2.0 dans un monde où notre individualité devient réflexive de second plan et n'est plus première. C'est une révolution cognitive tout à fait fondamentale. C'est ce qui rend quelque peu troublant le fait, par exemple, que si l'on parle d'éducation, on ne va plus s'occuper beaucoup de savoir ce qui est transmis par un professeur à un étudiant, mais on va se demander quels sont les modèles pédagogiques efficaces entre la Finlande, la Corée, l'Allemagne, l'Italie, la France. Et donc, les indicateurs agrégés permettront, in fine, de retourner à la pratique de classe. Mais ce n'est pas de la pratique de classe qu'on déduira la capacité pédagogique d'un système. Et vous voyez, il y a une inversion complète qui s'est faite de façon discrète. On ne peut pas dire que les débats aient été très forts dans le public sur tous ces sujets. Mais en une trentaine d'années, tout a complètement basculé. Les enquêtes européennes qui permettent d'établir en termes de santé publique, en termes d'éducation, en termes d'informatisation de la société, en termes de rupture ou de fracture numérique, toutes ces enquêtes européennes qui permettent aujourd'hui aux sociétés de se comprendre mieux sont venues d'initiatives qui, au départ, heurtaient quelque peu la sensibilité des praticiens dans chacun des domaines considérés. Et pourtant, aujourd'hui, c'est de ce type d'enquête, c'est de ce type d'indicateurs que nous dérivons une meilleure connaissance de nous-mêmes et de notre capacité d'action. Et c'est pourquoi il sera question tout à l'heure de risques psychosociaux et d'autres questions qui ont été évoquées dans le film tout à l'heure. C'est pourquoi on peut comprendre aujourd'hui de quelle façon la fragilité des individus, la part dans laquelle chacun des travailleurs, chacun des agents sociaux, chacun des responsables d'institutions se trouve prise à titre personnel, vient au terme, à la marge et en surplus de l'activité rationnelle, cette activité rationnelle liquide dont je parlais au début, qui nous met tous dans des flux d'informations non totalement contrôlés, mais qui, à un moment donné, nous oblige à nous replacer comme sujet pensant, nous oblige à nous replacer comme sujet éthique et politique en nous demandant quelles responsabilités nous prenons dans les processus auxquels nous coopérons. Et donc dans cette société de collaboration, société coopérative, collaborative, société 2.0, la responsabilité individuelle devient l'indicateur de questionnement et n'est plus le point de départ de la recherche. Nous avons d'abord à nous conformer à des règles collectives, et c'est aux marges de ces règles collectives que se développent, comme aujourd'hui dans ce congrès, des instances de réflexion qui nous permettent de partager ces expériences, de revenir aux choix fondamentaux qui nous donnent un engagement professionnel, qui nous mettent dans cette pluridisciplinarité dont il a été question, et qui font que l'expérience médicale, l'expérience sociologique, l'expérience économiste, l'expérience des urbanistes et autres, devient un lieu commun, un lieu de partage, duquel nous pouvons, à partir desquels nous pouvons échanger, parce que précisément les uns et les autres, nous partageons les mêmes approches quantitatives, les mêmes approches statistiques, qui nous permettent de nous comprendre dans un langage en partie désubjectivisé et en partie lié à des responsabilités et à des engagements professionnels et personnels. Donc voilà, pour démarrer cette journée, voilà la réflexion que je voulais vous proposer, quelques points plus spécifiques pourront apparaître dans la discussion après les deux interventions qui suivront la mienne. Merci beaucoup.